voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Academy dans cette émission à voix lue. Nous nous efforçons, le comédien Fernand Guillot et moi-même, de vous offrir des lectures d'extraits d'œuvres de grands auteurs français, académiciens de préférence. Le voyage en Grèce, surtout pendant le XIXe siècle, et plus largement le voyage en Orient avec escale obligée en Grèce, était quasiment obligatoire pour tout esprit cultivé, imprégné des idées romantiques. Et si tout à chacun sait que Chateaubriand et Lamartine, pour ne citer qu'eux, nous ont laissé leur récit de voyage, il est d'autres immortels qui ont approché l'âme de ce pays, immortel lui aussi. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir François Pouqueville. François, Charles, Hugues, Laurent Pouqueville, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, où il fut élu le 16 février 1827. C'est un personnage à la vie fascinante. Je vous le concède, il est un peu tombé dans l'oubli, mais ses récits de voyage en Grèce, qu'il a publiés dans les années 1820-1822, restent parmi les plus pittoresques. Alors, quelques mots tout d'abord pour résumer les principales étapes de sa vie. Il est né en Normandie, à Merlerot dans l'Orne, le 4 novembre 1770 et à 28 ans, il est embarqué comme membre adjoint de l'expédition d'Égypte, la fameuse expédition de Bonaparte. Il était médecin, il avait publié en latin une étude sur les fièvres de la peste orientale. Il est resté en Égypte une année, se faisant archéologue et géographe, et il finit diplomate. Et en effet, après avoir été fait prisonnier par les Turcs, puis libéré, il est arrivé en Grèce, en Épire plus précisément, avec le titre prestigieux de consul général de France et correspondant de l'Académie impériale des inscriptions et belles-lettres. Alors l'Épire, c'est la partie nord-ouest de la Grèce, celle qui fait face à l'île de Corfou. La capitale de cette région est Janina ou Ioannina et c'est là que s'installe notre voyageur. La ville à l'époque est sous domination turque, elle y restera d'ailleurs jusqu'en 1913. Voici l'évocation de Janina laissée par Pouqueville en 1806. On devine qu'il n'est guère favorable aux Turcs.
La nouvelle Janina, comme toutes les villes turques, se compose d'un bazar fangeux situé au voisinage du château, de rues tortueuses et de quartiers entrecoupés de cimetières entourés de murs qui n'ont même pas le mérite extraordinaire d'offrir quelques tombeaux bien entretenus. Le château de Litharitza, qui domine la presqu'île du lac, renferme le nouveau sérail du vizir, autour duquel se groupent les palais de ses fils Mokhtar et Veli Pacha. Ces édifices, bâtis comme tous les ouvrages turcs, ont cependant cela de particulier qu'on y voit des peintures à fresque exécutées par des barbouilleurs arméniens qui ont représenté différents sujets aussi monstrueux que le goût des princes dont ils font l'admiration. Ainsi, sur le fronton de la porte d'entrée du sérail de Mokhtar, ce pacha est peint entouré de ses gardes, assistant au supplice d'un homme qu'on attache au gibet. Les vertus ne sont pas entièrement bannies de cette ville, malgré l'influence d'Ali Pacha qui l'opprime depuis 30 ans. Mais sa garde est composée d'assassins. Ces pages sont les enfants dépravés des victimes de sa férocité. Ces émissaires, de lâches valaques, prêts à commettre tous les forfaits. Et ces affidés, des empoisonneurs, qui se font gloire de leurs crimes. Des ministres sacrilèges du Dieu vivant sont admis au secret ténébreux de ses conseils pour lui révéler la pensée de l'innocence et le secret des confessions. Des espions déguisés sous toutes les formes cherchent et scrutent les lieux où sont enfouis les deniers de la veuve et de l'orphelin. La vierge timide, cachée dans l'obscurité des appartements réservés au sexe, ne peut échapper à leur regard pénétrant. on l'arrache au sein maternel. On en arrache le fils, espoir d'une famille vertueuse. Et l'honneur, la beauté, la pudeur sont sacrifiés aux plus honteuses passions.
Vous l'avez compris, notre consul François Pouqueville n'est pas pro-turc et il n'hésite pas à dénoncer les méfaits de l'occupant, notamment des assassinats qui ont été commis en 1801. Les chrétiens sont tombés sous un joug et notre auteur de raconter l'histoire affreuse d'une jeune mariée, Frosine, chrétienne, mère de famille mais trop belle. Elle devient la proie du fils aîné du pacha et finit condamnée à mort, tandis que les autres femmes avec elle sont noyées dans le lac de Johannina. Après avoir été consul à Johannina, Pouqueville est nommé consul à Patras de 1816 à 1822. Entre ces deux postes, il a consacré l'année 1815 à visiter le pays et il se passionne évidemment pour les ruines et l'archéologie. Quand il arrive au port d'Athènes, le Pirée, il semble ébloui. Si aujourd'hui le Pirée est quasiment une ville tentaculaire et étouffante rattachée à Athènes, il demeurait à l'époque de Pouqueville un véritable port, une vue sublime sur Athènes, ce qui pousse notre auteur à quelque lyrisme poétique.
Il était 2 heures après minuit lorsque nous dépassâmes le phare sur lequel on n'entretient plus de feu et nous suivîmes les balises pour venir jeter l'ancre près de la douane. La nuit qui naît dans les beaux climats de la Grèce que l'absence du soleil enveloppait le Pirée d'une demi-teinte qui permettait de compter les vaisseaux marchands et les barques mouillées à peu de distance. Les vents semblaient endormis dans le sein d'Amphitrite. Un air suave parfumait l'atmosphère. Et les coqs annoncèrent la 3e veille de la nuit avant que je me fusse décidé à quitter un spectacle qui occupait mes pensées. J'entrai dans la douane afin de me reposer, mais ce fut en vain que j'invoquai le sommeil. Je comptais les heures et j'attendais avec impatience celle qui devait me faire jouir de la vue de l'Attique. Je sortais de demi-heure en demi-heure pour voir si on découvrait quelque chose. Enfin, les étoiles commencèrent à pâlir et les premières clartés du jour me montrèrent l'acropole d'Athènes. Le temple de Minerve qui frappa mes regards semblait reposer sur les nuages à cause d'un brouillard épais accumulé sur les montagnes. Cette brume produisait une illusion d'optique ravissante. J'étais dans une sorte d'extase. Mais quand le soleil eut dissipé les vapeurs, le Parthénon seul resta. Et je ne vis plus de toutes parts qu'une triste aridité, un sol dépouillé de verdure et des rochers calcinés. Le port du Pirée comprend comme autrefois 4 mouillages distincts qui, à l'exception de celui de Kéa, sont encore accessibles aux vaisseaux de haut bord. Plus heureux que M. de Chateaubriand, qui trouva ces bassins déserts, je vis sur Rade 8 bâtiments de commerce et un grand nombre de bateaux de Salamine et d'Égine chargés de fruits et de légumes. Ils apparièrent au point du jour pour Hydra, qu'ils fournissent de plantes potagères, car l'Attique est le jardin de ce rocher qui ne possède que de l'or, des vaisseaux et une population demi-barbare d'avides et intolérants albanais.
Athènes, je vous le rappelle, n'est redevenue capitale de la Grèce qu'en 1834, après que les Turcs en aient été chassés. Pouqueville dit qu'à Athènes, il y avait, à la date où il visitait, 1815, 3000 mahométans, autant de Grecs et 4000 Albanais, ce qui fait, si je me fie à mes comptes, ou aux siens, 10 000 habitants. D'Athènes, il va se rendre à Corinthe en empruntant une nouvelle route à flanc de montagne, étincelante de blancheur sous le soleil, et c'est là qu'il découvre le village de Mégara, un relais important pour les voyageurs où les habitants se montrent hospitaliers. Il en fait un récit chaleureux.
La bourgade actuelle de Mégara se compose de 335 familles grecques et albanaises chrétiennes. Ses habitants sont enrégimentés et conservent en tout temps le droit de port d'armes. Par suite du service actif auquel ils sont soumis, ils ne paient qu'un karatch de 200 paras au grand seigneur et le huitième du produit de leur récolte à Kiamil Bey de Corinthe, grand fondateur des terres de la Mégaride. Aussi remarque-t-on parmi eux un air d'aisance et de contentement qui n'est pas ordinaire aux chrétiens. Leurs maisons bien bâties sont propres. Leurs vêtements en toile de coton ont de la fraîcheur et leurs tuniques sans manches en laine, dont ils se couvrent en hiver, rappellent le costume des anciens paysans de l'Attique au jour de leur prospérité. Notre hôte nous reçut sur son toit où nous entrâmes de plein pied et nous invita poliment à descendre au-delà dans la chambre qu'il nous destinait. Nous prîmes notre repas en plein air sur la terrasse de la maison, environnée du tableau animé de la population entière de Mégare qui faisait retentir l'air de ses chants. Les maisons, groupées en amphithéâtre, étaient illuminées à l'occasion du panégyre qu'on célébrait. On apercevait à la lueur des torches de bois gras qui en éclairaient les terrasses, des danses et des familles rangées autour de leurs tables. Celle de notre hôte n'était pas sans doute la moins nombreuse, car il donnait à souper à 17 enfants mâles assis à ses côtés. L'aîné entrait dans sa 22e année. Le plus jeune était sur les genoux de sa mère qui était enceinte pour la 18e fois. Et le père de cette maison bénie du ciel paraissait à la fleur de l'âge. Il m'assura, en rendant grâce à Dieu de la fécondité de son épouse, que toutes les familles des villages de l'isthme étaient si nombreuses qu'au premier signal d'alarme donné par le poste militaire du grand défilé, chaque maison pouvait fournir 4 hommes en armes. Ce calcul était peut-être exagéré, cependant, il faut convenir que les villages, étant peu opprimés, sont plus peuplés que les villages de la plaine. Ainsi, il est démontré ici, comme partout où le peuple est à son aise, que le nombre des hommes est plutôt encore le signe représentatif de la bonté du gouvernement que de la fertilité du sol qu'ils habitent. Nous avions une noce dans notre voisinage, on criait et on chantait à tue-tête en s'accompagnant avec des lyres rustiques et des tambours de basque.
Si notre voyageur, on le voit, se passionne pour les vestiges de l'antique Grèce, il s'intéresse également aux êtres humains, sa vocation de médecin n'est jamais bien loin. Il arrive quelques jours plus tard à Corinthe, dont il laisse une brève description.
La moderne Corinthe se compose de 377 maisons disséminées au milieu des champs labourés et sur le chemin qui conduit à la citadelle. Les intervalles sont remplis et à de grandes distances par les minarets des mosquées qui s'élèvent comme des obélisques entourés de cyprès, emblème du deuil général de la florissante Corinthe. Un silence effrayant règne dans les places publiques, au port, dans les criques, et ce tableau de désolation ne change qu'au printemps avec le réveil accoutumé de la nature. La ville, divisée par des champs couverts de moissons, présente alors l'aspect de plusieurs grosses fermes entourées de leurs métairies. Mais c'est le seul moment de la vie de cette terre peu fertile. Dès que la récolte est finie, le terrain que le soleil dessèche n'offre plus qu'une triste aridité dont la monotonie est à peine variée par les bosquets clairsemés d'orangers et de citronniers qui ornent les jardins de quelques particuliers. Si je parlais des habitants de Corinthe d'après ceux que j'ai fréquentés, je dirais qu'ils sont doux, hospitaliers, aimables, et ce serait le contraire de la vérité. Les femmes ont en général la réputation d'être laides, cependant qu'il y a de beaux hommes, et Kiamil Bey, qu'on peut regarder comme un mahométan indigène, pourrait servir de modèle pour peindre un Apollon. Je pense qu'il y a aussi de charmantes corinthiennes, et que l'espèce n'est pas entièrement dégénérée comme le prétendent les gens accoutumés à critiquer, plutôt qu'à juger les hommes et les peuples.
Sur la route de Corinthe vers Patras, au village de Diakofton, Pouqueville entreprend l'excursion qui monte jusqu'à l'un des monastères les plus célèbres du Péloponnèse, le Mégaspylaion, dont les manuscrits rares ont été détruits dans un incendie. Écoutez sa description de ce monastère.
On nous avait aperçus de loin, et le prieur nous attendait à la porte de l'église, où il nous introduisit pour présenter nos offrandes à saint Théodore, protecteur de cette retraite religieuse. Après cette cérémonie, nous entrâmes dans la cour, où nous trouvâmes les moines occupés à rebâtir un mur d'enceinte renversé par un tremblement de terre qui s'était fait ressentir quelques jours auparavant dans toute la caillie. Enfin, on nous conduisit dans une cellule remplie de provisions et de pots qui exhalait une odeur porcine. Cette espèce de cambuse était cependant la chambre du supérieur et le seul endroit logeable du couvent dont les réduits et les corridors étaient d'une telle malpropreté que je n'ose en parler. Nous dînâmes avec nos provisions et pendant le repas nous fûmes l'objet de la critique des bons pères qui étaient scandalisés de nous voir manger du jambon à cause qu'on était dans le carême des apôtres qu'ils observaient à cette époque. En vain, nous leur représentâmes que la règle de notre Église ne nous astreignait pas à leurs abstinences. Ils souriaient avec dédain, et nos raisons ne leur parurent bonnes que lorsque nous donnâmes quelques sequins à saint Théodore. Ils convinrent alors que nous étions de très bons chrétiens. Ils nous servirent le meilleur vin de leur cellier et poussèrent la courtoisie jusqu'à nous offrir des fleurs et des bouquets de roses. Nous fûmes sensibles à ces politesses, mais la plus grande grâce que nous firent ces caloyers fut de se retirer pour nous laisser faire tranquillement la sieste.
Ces caloyers, ce sont de bons vieillards, c'est un mot qui qualifie les moines orthodoxes grecs. Vraisemblablement, notre voyageur est redescendu sur la côte, il a poussé jusqu'à Aegion, de façon à prendre le bateau pour traverser les trois bras de mer de Corinthe, et il a débarqué à Ithéa, et de là, il est monté jusqu'à Delphes. Lorsqu'il arrive à Delphes, aucune fouille n'a commencé. Aucun temple n'est dégagé. Delphes, c'est seulement un nom prestigieux, mais c'est un village pouilleux.
J'étais en vue de la baie de Crissa et des rochers de Delphes, ville d'éternelle mémoire, autrefois habitée par une population de philosophes et de prophètes voués au culte d'Apollon. J'embrassais l'étendue entière du mont Lycoré qui vit s'élever la première ville entre ses coupoles harmonieuses, après le grand cataclysme ou déluge de la Grèce. Au-dessous, je découvrais l'emplacement de Delphes, dont les remparts, ouvrage de la nature, n'étaient pas moins admirables que la majesté même de Phébus, auquel ils étaient consacrés. Mais, ô vicissitude des temps, je ne découvrais plus ces monuments, ces chars éclatants d'or, ces trépieds, élevés sur des colonnes que Brennus montrait de loin aux Gaulois pour les encourager à escalader les rochers du Parnasse. Quelques cabanes du village de Castries me rappelaient seules le séjour des hommes sur cette terre aride qui ne dut sa célébrité qu'à la célébrité mensongère de son oracle.
C'est sur le site admirable de Delphes que nous allons terminer cette émission consacrée au voyage en Grèce, relatée par François Pouqueville de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, un récit qui a fait l'objet de 5 volumes publiés chez Firmin Didot, père et fils, en 1820. Précisons encore qu'en 1824, Pouqueville fait paraître son « Histoire de la régénération de la Grèce » en 4 volumes, puis en 1835, son « Histoire et description de la Grèce » dans la collection « L'univers pittoresque ». François Pouqueville est mort à Paris le 20 décembre 1838.